Hey, on a un invité spécial ce soir, Sofiane.
Est-ce que c'est notre deuxième invité CCPP, genre depuis la création de ce show pourri?
Attends,
la deuxième personne.
C'est qui l'autre qu'on a eu?
Il y avait Sid à un moment.
Oui, oui, c'est vrai.
Sid. Et puis, c'est tout.
Ben, il y a eu Alec qui t'a remplacé.
C'est un remplacement. Ouais, Julien m'a remplacé. Super sub, Julien Tardif.
Mais là, aujourd'hui, on a quelqu'un de spécial.
On a Maradona.
Est-ce qu'on le dit? C'est qui exactement, Alec?
Vas-y, c'est qui? Ben, Alec, en tout le monde, on veut vous accueillir. Dr. Foot. Dr. Foot est avec nous. Bienvenue, Dr. Foot, à ton coming out. Vraiment, ça fait un an qu'on attend de faire ça. Là, puis...
Bienvenue à Dr. Foot.
Bois pas des aussi bonnes micros que moi.
Je pourrais montrer tes comptes connectés à ton téléphone Twitter, juste pour pouvoir te montrer Dr. Foot comme
j'ai,
ça.
J'ai envoyé mes dossiers personnels.
Ok. Bienvenue, Dr. Foot.
C'est ça. Mais ça doit être compliqué, Alec, de jamais se tromper, tu sais, passer de ton Android à ton iPhone, comme
ça. Ben déjà, ça, c'est un autre truc. Moi, jamais Android. J'ai jamais eu Android. Je comprends rien.
T'as fait venir ça par Internet, ce module-là?
Je paye quelqu'un qui écrit mes trucs.
Là, on va voir combien de temps que ça va prendre vraiment pour que la nouvelle se répande correctement. Alec est Dr. Foot. Mais sérieusement, le nombre de personnes qui me demandent en privé si je sais c'est qui Dr. Foot.
C'est pas toi, Nilton.
Non, malheureusement, c'est trop de troubles. J'aurais trop peur. Tu sais, déjà, j'ai Fru Nilton qui me sert à suivre Lucie Laurier depuis deux semaines.
Peux me rappeler, c'est qui Lucie Laurier? Peux me rappeler encore une fois?
C'est incroyable.
C'est une vraie personne, c'est une vraie actrice.
Tu fais tellement immigrant, là. J'ai honte.
Je suis allé avec son fils au primaire, genre. C'était quand même de mes amis, genre.
Pour vrai? Le fils de Lucie Laurier ou le fils d'une de ses sœurs?
Non, le fils de Lucie Laurier.
OK. Lucie Laurier, c'est...
Ah, c'est une actrice. Je m'en rappelle d'elle, là.
Ouais.
Je me rappelle d'elle à Virginie. Voilà. Attends, je me rappelle.
Bon, ouais, c'est une actrice. Je ne sais pas si c'est elle ou c'est sa sœur ou les deux. Ils ont commencé très, très jeunes dans l'industrie. Là, ils commençaient à faire des films et tout ça. Et ça peut expliquer aussi. Tu sais, « Kids, don't drop school ». C'est important, tu sais. Même si là, présentement, vous hésitez entre 35 heures à l'épicerie ou à vos cours, for real.
Ou bien, tu deviens acteur, actrice, tu fais de l'argent et après, tu t'en fous de l'école.
On voit, il y a beaucoup trop d'acteurs, actrices aujourd'hui qui écoutent YouTube comme Sofiane, mais Sofiane, lui, au moins, il y a un filtre d'éducation. Il regarde les YouTube de 5G, il hésite. Bon, au moins.
J'ai quand même fait un bac de 90 crédits. Qui dure 3 ans, je l'ai fait en 5 ans quand même. Donc, ceci explique cela. 5 ans pour 90 crédits.
C'est qui Harmonia, man?
Il faut que je google ça, Harmonia.
Vous êtes sérieux? Êtes-vous sérieux?
Un instrument.
Les deux, vous ne savez pas c'est qui Harmonium?
Non, man.
Vous pouvez bien ne pas aimer le baseball. Il vous manque un tas de
culture québécoise. De baseball?
Ouais, de San Pedro de Macorís.
En googlant en direct, c'est
un... Non, c'est un groupe de musique. Là.
On a compris.
Des années 70.
C'est un groupe de rock progressif du Québec.
Mais à l'époque, tout ce qui jouait de la guitare puis qui fumait un peu dans les années 70, c'était progressif.
Oh ben, joyeux anniversaire, Mike Miller, encore une fois.
Moi, je trouve pas que c'est ça. Mais bravo. Lui, Mike, au moins, est capable de faire des références culturelles québécoises.
Mais ça montre un peu son âge. Il a au moins 45 ans.
pas sur sa photo Tinder.
Non, vraiment pas.
Moi, je trouvais que tu ressemblais plus à Passe-Montagne, The Original.
Nilton, je ne veux pas googler ça.
Si tu veux googler, tu peux aller voir les heures de toilettage pour les chiens. Tu peux peut-être parler.
Pas mal. Wow, moi, je ne coupe pas les cheveux tant qu'il n'y a pas de vaccin. Donc, je pense que je...
Moi aussi, j'ai dit la même chose.
Ouais, c'est pareil. Là, mes cheveux gris paraissent moins. C'est cool.
Oh, regarde les yeux, ces petits cheveux d'enfant, là.
Donc, c'est ça, pour revenir à Dr. Foot, l'industrie du soccer Montréal est à la recherche de l'identité de Dr. Foot. Il y a beaucoup de théories. Il y a la théorie Alec qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place.
Juste toi,
Ouais, il y en a qui pensent que c'est moi. Il y en a qui pensent que c'est un duo, Sofiane et moi. Mais non. Non.
Bon, je comprends pas comment on ose m'accuser.
Ça sent les trois lions, je trouve.
Ouais. Okay, on est d'accord, c'est plusieurs personnes. C'est plusieurs personnes, je pense.
Non, je pense que non. Sérieusement, je pense que c'est une seule personne.
C'est une personne qui est
calme. Ça vient d'écouter trop de YouTube, là. Dès qu'il y a un truc, c'est pas, c'est plusieurs personnes.
As-tu googlé Dr. Foot sur
New? Regarde, rappelez, vous connaissez l'acronyme NWO. Vous êtes, pour vous, c'est la NWO, c'est pour la lutte, n'est-ce pas?
Le N. Pas le N.
N-W.
New World Order.
Voilà, ben, ouais. Voilà. Il y a un New World Order, man, qui contrôle nos gouvernements. Et donc, Dr. Foot en fait partie.
Excellent.
Vous googlez ça, vous allez voir.
On a dépassé notre quota de termes Google pour la soirée. Sinon, ouais. Alec, what's up? Ouais. Pendant ton confinement, on a beaucoup moins de photos de bière dans les nombreuses terrasses de Montréal. On voit juste probablement les bières de papa.
Non, mais pour vrai, je travaille encore, moi. Je suis encore au bureau 40 heures semaine. J'ai les cours
Frontline. Tu sais, les fameux t-shirts frontline workers, là, c'est toi, ça?
Ouais, mais le truc, c'est que là, je travaille dans le centre d'appel, fait que tous les agents sont à la maison. Fait que, tu sais, il y a juste moi, dans le fond. Tu sais, je suis dans une salle où on est 250, là, je suis tout seul. Fait que.
Ah, fait que t'as ton ordinateur de football manager, puis t'as ton ordinateur de. Ah, ouais.
Milton, ouais. Alec est jeune, sa carrière est encore jeune. Ouais, il ne brûle pas tout de suite.
Pas de syndicat, je dirais. Ouais.
Nous, on est comme ça, nous. Nous, on est là.
Toi. Non, toi.
Mais ouais, putain, j'ai les cours en ligne, là, quand c'est ça. Ça
va. Mais tu te souviens, comme deux jours avant le confinement, on a joué au foot ensemble, là, puis on faisait des blagues là-dessus.
J'étais pas là, moi.
T'étais pas là la dernière journée?
Non, j'étais parti au Mexique.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai.
J'ai manqué genre les quatre derniers.
Ils t'ont laissé sortir, hein. C'est sympa.
Et j'étais un peu stressé, même, parce que la journée où je suis revenu du Mexique, il y avait les premiers cas à la capitale, puis j'étais à la capitale. Ah, j'ai texté ma mère, je fais « Ah, je suis là pour des mois.
» Il a texté ma mère.
J'ai dit « Ah, c'est bon, pas besoin de venir me chercher à l'aéroport. » Mais finalement, honnêtement, il y avait des employés avec des masques, mais personne ne m'a rien demandé. Genre.
On va maintenant à Montréal commencer. Hein. On arrive à vérifier aux aéroports.
Peut-être puis, moi, le patient zéro montréalais. J'étais allé au stade olympique le lendemain.
Ah, c'est fou. On en parlait au dernier.
Vous riez de moi, puis d'autres gens riaient de moi dans d'autres chats privés. Genre, les gars, j'y vais pas. J'avais mon accréditation avec la CONCACAF a été acceptée. Je dis, il était 5h30 du soir.
Attends, Sofia, qui a pas eu son accréditation acceptée? Là?
Oui, mais.
Arrête de dropper ça.
Non, mais c'est pour dire que j'ai pas acheté un billet dans le sens genre j'achète un billet où j'y vais. Non, c'est pas bon. C'est plus pour une question genre je vais éviter d'aller rencontrer des gens pour acheter des billets. Je vais avoir un tac, je vais chercher. À 5h30 du soir, le jour du match, je m'apprêtais à m'habiller à partir prendre le métro. Je dis ah non, oublie ça. Ça me tente pas. En tous les cas, non, ça me tente pas. J'ai raté le but de Tider, magnifique, mais personnellement, ça, je le sentais pas. Je répète un peu ce que je dis à la semaine dernière.
Oh ouais, mais on n'est pas le premier show qui fait ça.
Broum. Broum. Ah mon Dieu, c'est chaud. Ouais.
Bon. Sinon, moi, j'ai une question qui va peut-être foutre le bordel dans ce podcast-là.
On se croirait Radio-Canada. J'ai une question.
Ouais, Dr. Weiss. Question du public. Il y a ici Ginette qui me demande le communiqué de l'Impact de Montréal. Là. Vous n'avez pas trouvé ça un peu weird, là, ce genre de communiqué-là?
C'était un peu lâche, je vous dis la vérité.
J'avais juste dit weird.
Okay. Non, mais genre, le communiqué était fait de telle façon pour qu'on déduise, qu'on fasse la déduction et corrélation logique que Saba s'est fracturé le pied. Parce que la santé publique montréalaise n'a pas ou donné le feu vert pour faire les entraînements.
C'est pas ça qu'ils ont écrit. Ils ont juste dit. Deuxième paragraphe, on ne peut pas s'entraîner. That's it. Okay. c'est donc, juste comme ça.
Donc, mais... donc toi aussi, tu me prends pour un idiot alors. Parce que quand j'ai lu ça, je dis pourquoi faire cette corrélation? Pourquoi?
Non, mais c'est parce que dans le fond, ouais. ils l'ont exposé, puis ils ont laissé les disciples IMFC faire la job qu'ils n'ont pas osé écrire dans le communiqué. Puis là, aujourd'hui, on a eu du Kevin Gilmore All Across Montréal.
Mais j'ai même pas écouté. Il a dit quoi? Il a dit quoi?
Il a dit beaucoup de choses, mais en gros, ce qu'il dit, c'est si le centre Nutrilait est ouvert, Saba ne se blesse pas.
Ouais. OK, donc, je déduis du communiqué, donc l'impact, comment ils ont communiqué, c'était une communication lâche.
Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut toujours blâmer l'endroit où un joueur s'entraîne pour justifier la blessure. Donc, si Diallo s'est blessé,
au centre Nutrilait.
Dans une température de merde sur le bord du fleuve avec un vent sur du turf. Après une saison complètement scrap parce qu'il y avait une blessure au tendon, c'est à cause de l'équipe.
Exactement. Non, c'est à cause du centre Nutrilait.
Ah, donc, OK. Donc, s'il se blesse sur du gazon, c'est à cause du jardinier. Oui. Et si c'est le turf, c'est l'installateur du tapis?
Exactement. Et ils vont aller jusqu'au Kentucky pour blâmer le gars qui a fait l'herbe du Kentucky pour donner. Non, mais en disant ce que j'ai dit, on peut oublier tous les CPP live avec des joueurs de l'impact. Ils vont nous bloquer. Hop. Désolé, Nilton, je viens de tuer le CCPP. Confinement, pour avoir des entrées avec les joueurs. Mais non, c'était vraiment nul. C'était vraiment maladroit.
Mais c'était pas nécessaire, je trouve, moi.
Voilà,
même si je les comprends, parce que c'est frustrant. C'est surtout qu'il y a une semaine, il sort Gilmore et il dit qu'il comprend pas la décision. Puis. Effectivement, là, on peut comprendre pour comment leur sentiment au moins. Mais après, là, il se brise le pied, c'est quoi, 6 à 8 semaines. Si ça reprend un grossi, il va manquer toute la pré-saison. Fait que, on s'entend que pour lui, c'est fini. C'est frustrant, là, je peux comprendre, mais après, il y aurait.
Il a l'air de
sortir ça en communiqué officiel.
Là. Oh, mais il y a juste l'air de mon gars. Qui me chicane parce que le voisin il joue avec des amis puis moi je lui dis non tu peux pas mais mon ami il peut jouer arrête de tout, on peut tout le temps se justifier en trouvant un comparable, tu sais là il sort des comparables du golf, il sort du si l'impact avait été dans le loop d'autorisation, il est conscient que lui-même aurait été un sujet de comparaison pour les autres qui sont ouverts, tu sais je veux dire jusqu'à un certain point. La MLS est pas, ils sont encore en négociation pour savoir comment ils vont relancer leur saison. Les joueurs de l'Impact de Montréal n'ont pas l'air chaud ou à un retour. Ceux qui s'expriment ont quand même des inquiétudes au niveau santé, au niveau familial. Les compensations financières sont pas toutes là. Fait qu'il y a tellement d'autres sujets que de parler de l'asphalte de Montréal.
C'est un très bon point, Nilton. Mais aussi, bon, la vérité, c'est est-ce que c'est plus dangereux de s'entraîner, de courir sur le béton montréalais, à l'extérieur de la rue, dans, je sais pas, Hochelaga, Verdun, whatever, que de s'entraîner au centre de Sud-Est? Oui, c'est plus dangereux.
Acheter des souliers avec un plus gros coussin.
Oui, mais c'est plus dangereux.
Oui, mais comme ils font, les gars et les filles qui s'entraînent dans un marathon, puis les Ironman, ils font quoi, eux?
Je suis d'accord, mais tout ce que je dis, si quelqu'un veut faire la comparaison binaire pour dire asphalte de la rue, c'est un centre Nutrilait qui est fait pour un centre de performance, qui est fait pour l'entraînement, c'est encadré et tout.
Moi, ça m'énerve. Oui, je suis d'accord. Tout le monde a ce sens-là, sans aucun problème. Ça m'énerve. Parce que souvent, on cherche la culture ou l'identité du club, là, mais tu sais, elle est là. L'identité du club, elle est là dans cet exemple-là. On est tout le temps victime. Tout le temps, c'est tout le temps à cause de quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est à cause de la ville si ça va se blesse. On n'est pas, c'est injuste ce qui nous arrive. Les chiens ont le droit d'être toilettés, mais nous, on n'a pas le droit de faire à quatre. Ouais.
Est-ce que la décision de la ville menote l'impact pour que ces joueurs soient dans des bonnes conditions de travail pour s'entraîner et se remettre en forme? Oui. Mais est-ce que est-ce que c'est un complot contre l'impact parmi les 15 complots qui existent? Non. Ce n'est pas le 16e complot anti-impact.
Bah après,
c'est un peu ça l'histoire qui.
Moi, je me mets à leur place sur mon Instagram. Je vois que LFC, eux, ça s'entraîne tranquillement. Je vois qu'à MLS, il y a 3-4 équipes aussi qui ont recommencé à s'entraîner. Puis, tu sais, ici, les gars, ils Moi, là-dessus, je les comprends, honnêtement. Après, comme Nilton dit, mettre la faute sur l'asphalte, c'est beau, c'est un peu poussé. Mais est-ce que ça aurait pu être évité? Je pense que oui. C'est plate à dire. Mais si ça fait une semaine qu'il s'entraîne en Nutrilet, ça va, il ne va pas courir autour de son bloc.
Oui, hein. Oui. C'est clair que tu peux me faire croire que le risque est moindre sans Nutrilet que par rapport à ton trottoir à côté de chez toi. Ça je suis d'accord avec l'impact. C'est plus la façon de se communiquer.
Ouais, c'est en plus, comme d'habitude.
Voilà, et en plus, vous me confirmez que Guimard a dit que c'est parce que le son de Nutrilet.
Oui, ça a été clairement dit. Là.
Oui, OK.
S'il s'entraîne à Nutrilet, il ne se blesse pas. Ben, oui, c'est sûr, Saba n'a pas été blessé avant. Là.
Pas du en fait, à la limite, on va dire qu'il ne se blesse pas comme ça. Au moins, oui, c'est vrai, ouais, il ne va pas se blesser comme ça, parce que oui, tu auras tout le temps raison. Mais c'est frustrant, puis en un moment, je sais pas, man, il devrait faire des Insta Live. Là, puis,
il devrait faire des Insta Live. Wow, c'est pas juste ça qu'ils font.
En tout cas, on n'aura jamais rencontré avec Kevin Gilmore ou avec les joueurs, je pense.
Mais ouais, je l'ai déjà dit, il n'y a aucune idée où on est king, et c'est pas super grave.
Je te jure. Bon, on parle du tournoi Orlando, là. Vous, que Newton, tu as de l'argent, tu es inscrit à The Athletic. Ils ont dit quoi, The Athletic, là, depuis deux jours? Là, il y a 15 articles, ça n'arrête pas.
Moi,
pas
l'argent, ils vont faire quoi avec mon argent? Là? Je leur ai donné des billets de saison comme ça. Tu
vas être télédiffusé?
Ben là, le plan, oui. Puis pour Luan, il faudrait qu'il se trouve un mais sans le dire à Antoine DS, sinon on va encore avoir de la chicane, on va être encore obligé d'intervenir, puis ça, on veut pas ça. Le plan, c'est une espèce de collaboration avec ESPN. C'est toute une question de fenêtre d'opportunité. Là. La première ligue qui est en mesure de présenter des matchs, ça va être hyper important, parce que sinon, à un moment donné, tout le monde va revenir. En même temps, même les endroits, tu sais, Orlando est déjà envisagé pour la NBA.
Ouais, exactement.
C'est ça, tu sais, le baseball, c'est plus en Arizona, le hockey, c'est dans d'autres villes. Mais tu sais, on peut pas, t'imagines 5 ligues nord-américaines qui arrivent en même temps en télévision, tu sais, même s'ils font des matchs à toutes les heures de la journée parce qu'il y a plus de public, donc c'est moins grave. Faut que la MLS soit en mesure d'être là le plus rapidement possible pour avoir cette compétition-là. Là, de ce qu'on comprend, c'est que le tournoi, c'est vraiment un tournoi à part qui n'a pas de lien avec la saison. Peut-être pas de lien avec la saison. En tout cas, sûrement pas de lien avec ce qui s'est passé avant dans la saison. Fait que ce serait 4 divisions, une espèce de phase de groupe. Et on tomberait tout de suite à 8 équipes, des phases éliminatoires tout de suite à 8 équipes. Donc, tu sais, on élimine rapidement des équipes là-dedans. Et le but, avec l'espoir de pouvoir reprendre un peu plus tard en fin d'été ou à l'automne, c'est de récupérer les résultats de ce match-là pour continuer la saison MLS, parce que le tournoi ne donnerait pas accès à la Coupe MLS nécessairement. Mais tu sais, tout ça, c'est encore, tu sais, à chaque... C'est pas juste la MLS là, qui change à tous les jours. Quand on lit les articles... NBA, NHL, baseball, tu sais, les grands reporters le disent. Ce qu'on dit un matin, rendu le soir, c'est totalement changé. Mais on voit que les équipes essayent de revenir rapidement possible. Les joueurs, bon, il y a les joueurs qui sont pour un retour. Il y a les joueurs qui sont pour un salaire. Parce que ça aussi, il va y avoir un gros jeu. Puis la MLS, ils avaient une entente de principe pour la convention collective. Mais là, elle n'est toujours pas signée. Ça peut aussi causer des problèmes. Mais vous autres, un tournoi comme ça, qui serait une espèce de je sais pas, Restart MLS Cup, ça vous intéresse?
Moi, oui, clairement. Tu sais, c'est du foot, après. ça nous manque beaucoup. Avec ça. Puis on n'a pas trop le choix. Tu sais, je pense que on va prendre ce qu'on a. Du monde qui aurait jamais écouté le foot allemand, écouter du foot allemand. Puis d'un côté, ce serait quand même intéressant, une genre de mini-coupe du monde d'un MLS. Tu sais. Fait que oui, non, clairement, moi, ça m'intéresserait. Puis un truc... très film américain, là, que tout le monde joue à Orlando, un petit tournoi, tout le monde dans la même ville. J'aime bien, moi, personnellement. C'est sûr que c'est pas top, c'est pas la meilleure solution, mais il y en a pas, je pense. Donc, honnêtement, moi, ça m'intéresserait. Moi, j'aimerais.
On pourrait défendre notre MLS, notre Disney Cup, gagner un...
Exactement. On devient champion en titre. mais...
Undisputed.
NWO, WWE. Mais, non, le tournoi est intéressant. Mais je trouve bizarre qu'à chaque fois qu'on essaie de se détacher ce tournoi par rapport à la saison et à la Coupe MLS, pourquoi la Ligue n'accepte pas que la saison est finie? 2020 n'existe plus, mais tu peux la réanimer
ça.
Avec ce tournoi qui devient la nouvelle saison MLS, puis c'est tout. ce tournoi remplacerait la saison MLS. Puis, est-ce que tu penses vraiment que tout le monde va jouer entre septembre et décembre? Disons qu'il y a un vaccin qui arrive. Août, on est content, on fait la
fête. Selon tes dernières recherches, est-ce qu'il y a un vaccin qui arrive?
Regarde, j'ai parlé à mon gars, Luc.
Luc Wong.
Il y a un vaccin qui arrive au mois d'août. Boum. Puis en septembre, il commence à donner aux gens des urgences, puis aux équipes professionnelles, parce que c'est un service essentiel. On veut que les gens voient des matchs à télé, whatever, pour des raisons bidons. Donc, si ça arrive, OK, tu pensais vraiment que les équipes vont jouer entre septembre et décembre pour faire une saison, alors qu'on sait que dès octobre, Montréal, Toronto, la moitié de la ligue est déjà injouable quasiment et qu'à cause de la météo, ça a des conditions assez exécrables. Donc, il faut voir. Mais pourquoi on ne prend pas la chance? Si ce tournoi arrive vraiment, que les joueurs acceptent et que l'enjeu financier dont on a parlé est réglé, ben, faites sans comme étant la saison. Et comme Nilton disait avant, et Alec aussi, c'est une course contre la montre. La MLS peut être les premiers à diffuser sur le territoire américain, même si les gars qui ont la NBA et la NFL, ils s'en foutent totalement. Mais tes fans à toi, ils vont être encore plus engagés. Mm-hmm. Et puis, tu pourras peut-être trouver des nouveaux fans ou juste, je veux voir un match de foot.
Les autres ligues, ils ont juste. Leur enjeu est plus facile à régler. Ils ont les playoffs à régler.
Ouais.
La NBA, on peut scraper la saison, passer tout de suite à quelque chose qui ressemble à des playoffs. Même chose pour la Ligue nationale de hockey. Même chose pour le foot européen. Les autres aussi, leur enjeu, c'est de terminer la saison. La MLS est en plein début de saison. Là, ils savent pas trop quoi faire. Là. Est-ce qu'on attend plus tard? Mais là, comme tu dis, il y a des enjeux géographiques, météo. Là, ils sont obligés de revenir pour pas être oubliés de la scène internationale. Ouais. Là, ils arrivent avec cette espèce de tournoi-là qui peut servir de buffet là, rapide.
Et puis c'est une bonne idée. C'est du foot. Puis on n'a pas. C'est pas une ligue aussi homogène que la Bundesliga où c'est très cadré. Tout le monde est sous la même bannière. Même si la MLS, c'est une ligue centralisée et franchisée.
J'ai hâte de voir comment ils vont gérer leur effectif, parce que l'effectif actuel, avec les règles, là, c'est impossible de jouer comme ça 5 matchs en 20 jours. Là. Ils sont obligés permettre aux équipes d'aligner des joueurs de leur réserve académie sans nécessairement
avoir des contrats.
Ils sont obligés de monter un effectif à 30 comme en Europe. Ouais. Sinon, ils sont pas. Et ça peut être des belles opportunités. T'sais. Mais la MLS va s'en sortir. Moi, je suis beaucoup plus inquiet pour la CPL. Très inquiet pour toutes les équipes de la USL. Ouais. Je veux dire, la USL annonce un tournoi quelque part en Arizona, on s'en tape. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui va regarder ça. Ces joueurs-là gagnent 20-30 000 en CPL puis en USL. C'est terrible pour eux autres. C'est une année scrap. Il y en a beaucoup que c'est une fin de carrière. Des opportunités de relancer des carrières qui viennent disparaître. C'est vraiment, vraiment un méga choc sportif pour tous ces joueurs-là.
C'est clair.
J'ai comme le goût de dire aux joueurs de la MLS, oui, ça vous fait chier là, de sortir de la famille. Oui, il y a un stress d'aller dans un endroit avec tous ces contrôles, chance d'attraper le virus, mais vous savez quoi? Il y a des pires que vous. Il y a des gens qui travaillent pas, il y a des gens qui vont perdre leur emploi, il y a des gens sur le chômage, il y a du monde qui sont face à des virus à tous les jours. Ouais, c'est pas nécessaire. Puis le sacrifice famille, oui, c'en est un, mais tu sais, quand tu pars en sélection puis tu te rends jusqu'en finale, t'es pas loin de 2 mois sans voir ta famille, là, nécessairement.
Ouais, exactement.
Je veux dire,
honnêtement, ceux qui vont être le plus en sécurité, c'est les joueurs professionnels. Si je veux dire, moi, je vais travailler tous les jours. Lundi, quand ça va réouvrir, personne ne va être testé 4 fois par semaine. Aucun de nos collègues vont être testé 4 fois par semaine.
Une fois que tu es malade, ben, tu te mets en ligne avec tout le monde pour être traité.
Exact.
Eux, ils devraient être pas pire traités.
Oui, exactement. Si, puis après, on s'entend qu'il n'y a pas plus en forme que les joueurs pros dans le monde aussi.
Sauf Novilo.
Les joueurs pros.
Puis pour aussi, c'est un beau parallèle. C'est quoi? C'est la NHL, la NH qui pense aussi à un sort de méga tournoi.
Oui, hey, ouais,
Gavino.
Ouais.
Salut Gavino.
La NHL, ils sont wise, tu sais, parce que ils ont vu les équipes, les gros marchés, ils ont fait une ligne.
Ouais.
Ça c'est pas fou ça. Puis eux ça c'est un méga enjeu pour notre marché à nous, tu sais, une fois que la NHL va être là, c'est fini la couverture médiatique de l'Impact de Montréal. Là, un Montréal, tout d'un coup, qui se retrouve en play-off. il n'y aura pas beaucoup de temps pour Danton pour l'Impact de Montréal. Tu sais, l'été passe. Quatre... Comment?
Ça va durer 4 matchs.
Non, mais possiblement. Mais tu sais, je veux dire, l'année passée, je pouvais parler de l'Impact au 91-9 le matin, l'après-midi et le soir. Là, on va oublier ça. Là. Je veux dire aussi, si, ouais. Si on peut dire le résultat, ça va être beau parce que.
Non, non, c'est vrai. Moi,
je pense que les gens vont être intéressés par du sport. Il y a beaucoup, j'entends beaucoup de gens me dire que l'intérêt pour le sport sera plus ou moins là. Mais moi, j'ai vraiment la conviction que dès qu'il va commencer à avoir du sport qui intéresse vraiment là, ton crowd, ça va repartir.
Ben oui, 100%.
Non, non, l'intérêt va de là. Maintenant, il y a les ligues marginales dans son marché comme la MLS. Une ligue marginale par rapport à sa compétition directe. Moi, j'aurais la NFL, la NBA et la MLS. La MLS, c'est une ligue majeure pour
comme
moi.
Comme tu disais, si la MLS part avant, tout le monde va battre. Tout le monde, beaucoup de monde va avoir les yeux tournés vers la MLS.
Exactement. Et c'est parfait. Mais je pense que la NBA va le faire avant. Je pense que la NBA va battre tout le monde.
En fait, ce qui est cool, la NBA, c'est qu'ils peuvent le faire quand ils veulent. Puis tous les yeux vont tourner vers la NBA. Ouais. Faire ça. En plus, avec The Last Dance qui vient de sortir, oublie ça.
Ouais, OK. Ouais. Allez, pourquoi la NBA est devenue le front-runner du sport nord-américain? Là? Pourquoi tout d'un coup, tout le monde doit attendre que la NBA va faire quelque chose pour établir son plan?
Là, tu vois, moi, c'est le marketing, en fait. Les personnages de la NBA sont tellement cool. Genre, comme, même quand tu regardes The Last Dance, je veux dire, tout le monde voulait être Jordan, tout le monde voulait être Dennis, ben pas tout le monde, mais Dennis Rodman aussi, je veux dire, il attire énormément. Là, t'as LeBron James qui est quasiment un modèle parfait, genre. Tu sais, t'as des gars qui trash talk. Puis ce qui est le fun du basket, comme on en parle, on avait déjà eu cette discussion, Nilton, c'est que même si tu vois Cristiano et Messi, mettons, ils se disent, OK, on va voir samedi qui est le meilleur, tu vas jamais les voir un contre un sur le terrain en une heure et demie. Si Westbrook, quand Durant est parti, Westbrook a dit que c'était un soft. Quand ils jouaient contre, les deux étaient un contre un. Ils se poussaient, ils se criaient dessus, ils se dunkaient dessus, ils se bloquaient. C'est incroyable. Genre, je veux dire, tu as du un contre un direct sur le terrain, puis c'est directement du basket que tu joues dans la cour d'école avec tes amis.
Les joueurs, c'est des amateurs de trash talk. Les fans aiment ce genre de trash talk-là. Ouais. Et forcément, les médias ont embarqué dans ce jeu-là. Parce que quand tu me parles de Messi et Ronaldo, ça n'existe pas, tu sais. On essaie plutôt de séparer cette confrontation-là. Tu sais, oui, dans les médias, ils vont avoir les pros argentins, les pros européens, portugais, puis qui vont trouver les défauts de chacun. Puis souvent, le média, ce qu'il va dire, ben, hey, guys, essayez juste de profiter d'avoir deux méga stars en même temps, c'est assez rare. Arrêtez de les mettre un contre l'autre. Tandis qu'à l'NBA, ils veulent faire ça. C'est ça.
Oui, puis le swag. Genre, les gars de l'NBA ont du swag. Genre, comment ils s'habillent même pendant les matchs.
Ouais, mais.
Jordan, c'est dégueulasse.
Jordan, ouais, mais c'est celui-là.
Alex.
Mais maintenant, je veux dire, maintenant, les gars.
Alex, tu as raté la partie où c'était très. Tout le monde s'habillait comme il voulait. Donc, l'NBA avait beaucoup de joueurs qui venaient de milieux défavorisés, donc qui étaient un peu ces gangsters, si vous voulez, mais c'est pas vraiment gangster.
Iverson,
quand il rentrait. Oui, mais Iverson, lui, pour moi, après Jordan, puis j'étais encore, j'avais les Spurs de Duncan qui commençaient, puis Kobe, Shaq et tout ça, ça commençait à, bon. Et les Pacers de Reggie Miller vers la fin, puis après, il y a Iverson qui est venu pour rafraîchir tout ça un peu. Et oui, il y avait un problème d'image par rapport à l'NBA qui voulait un peu, désolé, blanchir un peu son image, on va dire la vérité. Comme la NFL fait tout le temps, bravo à la NFL. Alors là, en termes de justice sociale, c'est -150.
On essaye d'inviter Richard Labbé, puis là, on attaque le hockey, puis on attaque la NFL.
Richard Labbé va venir, OK? Taguez-le sur le Periscope, il va venir. Mais c'est pour par rapport à l'NBA, tu sais, ils ont changé leur image, après, ils ont eu, tout le monde s'habille de la même façon, ils s'habillent c'est plus propre, etc. Maintenant, ils ont accepté les personnalités avec. C'était un peu l'arrivée de LeBron, puis même avec LeBron, puis t'as les Durant et les Harden, tout ça. C'est la personnalité est devenue encore plus vers l'avant parce que les réseaux sociaux ont fait que t'as la façon que la NBA, sinon on n'a pas le choix. Donc, en fait, il faut qu'on accepte que les joueurs soient plus grands que la ligue, entre guillemets.
On accepte les différences parce que je me souviens la journée où Mike Ribeiro est arrivé avec une tuque. La tuque, c'était le scandale. C'était scandale à 110%. Là, on a parlé de la tuque pendant une semaine de temps.
Ah, c'est le genre de truc Moi, personnellement, ma génération, c'est horrible. Genre. C'est comme...
Ouais.
Ah, tu sais, comme moi, j'ai grandi avec Beckham. Je voulais jouer à m'habiller comme Beckham. Comme, quand Beckham est arrivé, je me rappelle, on arrivait aux pratiques, on était tous coiffés, on avait tous du gel dans les cheveux. Là.
Ouais.
Tu sais, comme... c'est con, là, mais genre...
Boucles d'oreilles.
Ouais, on avait boucles d'oreilles, mais Cristiano aussi, il a fait la même chose. Genre, tu sais, quand je coiffais, les gars, les petits gars, il y a des boucles d'oreilles, la coupe à Cristiano, il y a les petites mèches blondes, tout ça, tu sais, c'est... La NBA, ils ont assumé ça à fond. Là. Tu sais, je veux dire, avant chaque match, le compte Instagram, il met une publication de comme 15 photos, des ben 10, je pense, de maximum, des outfits des gars en arrivant au match. Là. Puis tu sais, ils ont beaucoup... Tu sais, comme, puis il y a toutes les grosses marques qui sont associées à eux. Dans la culture populaire de la mode, c'est des icônes.
C'est, de la... Je pense que c'est la ligue qui a été tout le temps... à chaque fois qu'il y avait un nouveau trend, surtout avec le web, que ce soit le contenu média. Le contenu média à l'NBA, c'était beaucoup de highlights, souvent, régulièrement, avant les réseaux sociaux. La NFL, maintenant, s'est rattrapée beaucoup. La NFL va dépasser l'NBA dans pas longtemps, non, mais le contenu vidéo, les réseaux sociaux, c'est.
Parce qu'ils
acceptent tout. Ils acceptent tout, puis ils le prennent pour leurs propres besoins, pour dire oui, oui, t'es individuel, fais ce que tu veux, moi, je vais faire de l'argent avec toi.
Parce que... Le problème du hockey, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'anciens joueurs de hockey dans des postes de direction, puis qui sont pas. Ils essaient juste de reproduire. Ce qu'ils ont vécu de génération en génération. Est-ce que dans la NBA, tu sais.
Est-ce que vous voulez la vérité?
Est-ce que la NBA utilise aussi leurs anciens joueurs dans leur poste de direction ou ils vont beaucoup plus large au niveau marketing, au niveau commerce, quand ils voient vraiment, tu sais, ils voient les opportunités puis ils vont. Tandis qu'au hockey, tu sais, t'as un commissaire qui est arrivé qui arrive du hockey, mais qui est nommé par des dirigeants de hockey. Et quand tu regardes, c'est que des anciens.
Mais tu vois, le basket, comme le soccer en Europe, laisse la place aux joueurs. On va pas se mentir, oui, c'est un sport qu'on dit collectif, mais comment tu vends le produit, c'est tu vends des personnalités, puis tu vends les joueurs. Le hockey ne vend pas les joueurs. L'NBA vont vendre les joueurs, ils vont vendre les histoires sur les joueurs. LeBron qui arrive dans l'NBA à 19 ans, 18, 19 ans, puis dit « I'm the chosen one, je vais aller chercher Jordan ». Tu vois, est-ce que tu as déjà vu ça au hockey? Quelqu'un t'allait dire « je vais aller chercher Gretzky », oublie ça. Il y a un gars, il a mis le numéro 99, puis ça fait un scandale à chaque jour.
Parce qu'il faut aussi expliquer qu'il y a une grande différence entre la démographie des joueurs et l'ethnicité des joueurs. NBA et NHL, il y a une très grande différence. Et même
maintenant, c'est moins vrai parce que maintenant.
Non, c'est mieux.
Mais maintenant, le fait. Non, mais.
Il laisse la place aux jeunes aussi.
Oui, là. Oui, on
le sait. Non, c'est bien une question de jeunes.
Ils viennent tous du même background culturel et tout ça. Mais avant, c'était beaucoup plus vrai. C'était nord-américain à 95%.
Oui, et les Européens, c'est.
Là, l'influence arrive de tous bords. Un Européen qui arrive va pas nécessairement le même background, puis il est habitué à vivre le sport autrement que juste par la NHL. Puis tu sais, on le voit, il y a des joueurs de hockey qui s'intéressent aussi à d'autres choses qu'à la NHL et qui sont intéressés de reproduire ce comportement-là. Mais avant ça, dans les années 80, jusqu'à les années 2000, les joueurs de hockey ne faisaient que du hockey, ne consommaient que du hockey. Maintenant, c'est moins vrai, là.
C'est vrai, parce qu'en même temps, les joueurs s'exposaient aux réseaux sociaux, s'exposaient à un autre mode de vie. Ils sont nés avec une tablette dans les mains ou un téléphone dans les mains, comme Conor McDavid, quand il est né, les téléphones intelligents existaient quasiment ou presque. Là. Mais non, j'exagère, mais McDavid n'est pas si jeune que ça. Mais c'est pour dire par rapport à ça, oui, c'est un bon point, Nilton. Mais si tu regardes un peu la NHL, c'est quand même une ligue voilà, blanche. Et dans sa culture, on parle de Ribeiro et de la Tuque. Quelqu'un, on fait ça maintenant, on se dit, wow, est-ce que les gens n'aiment pas les Portugais? C'est du racisme. Il n'y a pas longtemps. Piqué Souban, c'est hier, là.
Oh my god.
Est-ce qu'on va faire semblant que c'est pas arrivé? Et c'est qui le joueur qui a une grosse, le joueur, là, qui a accusé le gars Calgary d'être raciste, puis.
J'ai oublié son nom.
Akim Akio?
Ouais, un truc comme ça.
Hakim Aliou, voilà. Donc, c'est ça, c'est il n'y a pas longtemps. Donc, il y a quand même une culture qui est très macho, très hockey. Maintenant, si le hockey existait, genre, je sais pas, moi, en Éthiopie, si ça existait là-bas, peut-être il y aurait le même type de culture où c'est macho, c'est in-house, puis on ne sort pas de la chambre. C'est peut-être pas nécessairement ethnocentrique, mais ça ne change pas que quand des joueurs qui sont différents, Ribeiro que ça tue, mais merde, c'est une tue, qu'est-ce qu'on a à foutre? Et quand on voit que c'est les gens, parce que les médias, c'est des personnes, c'est eux qui ont des opinions, parce qu'ils sont des personnes, c'est pas une entité comparatif qui a une opinion. C'est une personne qui a une opinion, qui décide d'écrire ça, telle colonne avec tel article et tel reportage. Donc ça, ça influence les gens. Et puis la NBA, tout le monde rentre dedans sur tout le monde. Mais c'est un marché assez libre. Et si tu, en plus avec les réseaux sociaux, les joueurs, surtout de la NBA, l'utilisent beaucoup pour parler à leurs fans. Le hockey, il le fait un peu plus, mais c'est quand même très aseptisé. C'est quand même beaucoup trop. Regarde, la Caroline, les Hurricanes, ils font des célébrations. Don Cherry, ils s'énervent. Mais ça, c'est Don Cherry. Je suis pas mal sûr d'autres s'énervent, mais ils le disent pas. Donc, à un moment donné, il faut dire la vérité, la NHL, c'est une ligue ennuyante en termes de tout ce qui est hors glace.
C'est vrai.
McDavid, c'est super. Crosby, c'est super.
Mais ça s'améliore. Mais ça s'améliore même, même sur la glace, ça s'améliore parce qu'on voit beaucoup plus de talent sur la glace.
Oui.
On cherche les skills maintenant plus qu'autre chose. Et le basket, c'est ça aussi. Hein. Quand tu regardes, quand j'ai regardé The Last Dance, les matchs, c'était 86-84. Ouais. Maintenant, les matchs, c'est 152-148. Genre.
Ouais, c'est abusé.
Ouais,
j'ai un peu déconnecté à cause de ça. Parce que,
mais c'est une ligue de highlights. On va pas se mentir, l'NBA, c'est une ligue de highlights.
Non, c'est vrai. Mais par rapport aux anciens, tu sais, Larry Bird était coach des Pacers de 97 à 2000-2001. Isaiah Thomas a été GM des Knicks, mais c'était une catastrophe. Mais il y a des anciens qui sont... Qui sont restés dans les équipes NBA, mais là, c'est ça. Mais la ligue se rajeunit, tu vois, c'est beaucoup plus. C'est une ligue qui a, la NBA, c'est une ligue qui a très rapidement accepté les data analytics. Il y a un gars, j'avais une interview il y a quelques années, c'est lui qui conseillait Kevin Durant quand il commençait dans la ligue. C'est un gars qui a créé un système pour, comme les expected goals, mais sur les tirs, sur les shots, c'était incroyable. Le gars, c'est une boîte de consultation. Je pense qu'il est en même temps. Assistant GM, il travaille dans un club NBA, mais où il avait travaillé, puis il a fait sa propre boîte de consultation de data analytics pour le basket. C'est incroyable. Donc, c'est une ligue qui est tout le temps en avance sur beaucoup de ligues par rapport à comment il marketise le produit. Donc, NBA, c'est une vraie référence. Et The Last Dance, bon, en parlant de The Last Dance, on voit clairement, tu sais, le déclic Jordan. Tu sais, Jordan, les années 80, fin 80, l'NBA, il y avait personne à Chicago. Puis, boum, les Bulls, c'est l'équipe que tout le monde voulait regarder quand Jordan était là-bas. Mais The Last Dance nous a montré un peu comment l'NBA est devenu l'NBA de maintenant. Juste, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que Kobe Bryant wanna be like Mike, que LeBron wanna be better than Kobe, wanna be better than Mike. Tu sais, il y a tout ce cycle-là, puis c'est incroyable. The Last Dance nous a un peu remis ça, nous a remis en perspective et nous a donné beaucoup de mémoire. Ah, c'est vrai. La NBA, il y a quand même des moments difficiles, mais il y a un déclic, puis ça, je trouve ça super. Ça m'a donné des bons souvenirs.
Alors, il n'y a plus rien à écouter sur Netflix maintenant que The Last Dance est fini. Julien, tantôt, c'était quoi notre feeling pour la CONCACAF? Est-ce qu'on pense que ouais, c'est terminé selon toi? Les qualifs aussi pour 2021, comment ils vont déterminer tout ça?
Ouais, c'est le bordel. On a pas de peut-être élargir le tournoi, là.
Pour l'année prochaine, réinviter les équipes qui sont là qualifiées puis repartir ça.
Mais quoi qu'il arrive, personne ne sera content. Hein. Quoi qu'il arrive, quelqu'un va se plaindre, personne ne va être content. Et puis, je me souviens, 2015, n'est-ce pas, monsieur Alec?
Ouais, l'Américain.
Espèce de traître. Mais,
Donc, on a perdu à cause de toi.
Exactement. Clairement. Il est floqué, Benedetto, d'ailleurs.
Avec une signature et tout. Là.
T'es mieux pour un poste à l'Impact de Montréal.
Ah, je te jure. Qu'est-ce que vous voulez regarder de sport en mode confinement?
Bon, on a tous écouté la Bundesliga.
J'ai regardé 45 minutes, là, j'arrête.
j'ai écouté la première mi-temps, je sais comment ça va.
Qu'est-ce que t'intéressait pas? Les équipes, l'ambiance, le jeu?
Je sais pas, on dirait que on dirait que c'est irréel encore. Je sais pas, on dirait que je regardais, puis on dirait le match d'entraînement, le match de pré-saison.
Ouais. Mais je sais pas.
Ça va être ça, la MLS. Pourtant, la MLS, tu t'es intéressé parce que.
Après, j'avais un stream pourri qui buguait au chat.
T'as pas les accès de papa?
Non, il faut que je négocie à mes parents avant. C'est compliqué, là, les gars. Là, ouais, moi, je suis pas comme vous, là. Je peux pas juste appuyer sur abonner. Non, pour vrai, mais c'est quoi?
Avant d'écrire abonné, je sors la carte de crédit, je fais mon nez, moi je suis abonné.
Mais parce que je me dis, je vais peut-être attendre qu'il y ait plus de ligues avant, c'est quoi, c'est 20$ par mois?
franchement, c'est pas si mal. En tout cas, négocier avec. Ben, dis que tu vas faire son gazon, puis tu devrais être correct.
En plus, sur le plateau, il n'y a pas de gazon. Fait que ça serait vraiment un bon deal pour moi.
tu vas arroser les plantes et la coriandre et le persil. Là.
Mais toi, le fait qu'il n'y a pas de spectateurs, c'est ça qui.
C'est un peu tout. Je pense que c'est un peu de, le fait que. Tu sais, est-ce que c'est sécuritaire ou non? Est-ce que. Je sais pas. C'est un peu l'atmosphère. Je trouve qu'elle n'est pas propice. Je sais pas. J'étais pas en mood.
J'étais pas en mood pour ça. C'était pas.
Moi, mon hypothèse.
C'est sur des vies, toi, c'est ça?
Ouais, j'ai écouté un peu. Puis, tu sais, honnêtement, après, j'aime bien. J'ai toujours aimé le Bayern. Bon, ils ont des bons joueurs. J'ai voulu écouter Dortmund, mais. C'était tôt.
Mais ça, je l'ai.
Aussi. Mais l'instrument est en russe, je comprends rien.
Comme le gardien, il a gelé. Là. Comme le gardien Schalke, il a gelé.
Ça, c'était scandaleux. Hein.
Mais pour moi, ouais. moi, je pense, mon hypothèse, c'est que le sévrage n'était pas si long que ça.
Quand même, 12 semaines.
Faites 6 mois, là, 8 mois, tu vas voir la Bundesliga. Yes! Offenheim contre Asberg, là, les gens vont dire.
Dortmund!
On dirait que. Dans ma tête, c'est encore le fait que, tu sais, on était rendu à la période de l'année où c'était la meilleure période de l'année. Tu sais, on avait les Ligues des Champions encore de finale, ouais. Les séries de hockey, les séries du basket, la MLS commençait peut-être un peu plus sérieusement.
L'Euro s'en venait.
Puis là, on a comme des matchs qu'on dit devant personne. Je sais pas, c'était comme un trop gros drop-down. Puis ça, je sais pas, ça m'a. On dirait que je voulais pas être déçu. Je sais pas.
Moi, personnellement, l'ambiance me dérange pas tant que ça. Je comprends, c'est important, ouais. Mais honnêtement, si je veux voir du foot,
non, ça me dérange, moi.
Moi, j'étais au stade d'Agnington il y a 2 ans, là. Ça, c'était plutôt.
Il n'y a pas de foot aussi.
Moi, je voyais le match, l'ambiance, c'était pas nécessairement au rendez-vous, mais j'aurais regardais le match quand même.
Donc, oh my god. Avant que tu dises, il faut que tu m'avertisses. Je fais pause. Wow. Mais,
honnêtement. Non,
mais après, moi, pendant 5 minutes, je trouve ça cool parce que tu entends les gars parler. Comme quand j'avais écouté Paris-Dortmund. Tu sais, t'entendais les gars derrière, ouais. Ça vient.
J'ai hâte de comprendre ce qu'ils disent.
Ouais, c'était cool pendant 5-10 minutes. Après, quart de finale Ligue des Champions, moi, je voulais entendre le stade pousser, je voulais en stand. Ouais, ouais. Je sais pas, là, on dirait que le stade garde le match en vie aussi.
Ouais, mais pas de fausse foule, là. Please, no.
Ah non. Non, mais l'idée de mettre des trucs sonores, là, jamais de la vie.
Non, arrêtez. Non.
Jamais de la vie, là. Genre mettre des chants enregistrés.
Non, on fait pas ça.
Ça s'appelle le Centre Bell. Il ne faut pas répéter les erreurs d'autres personnes. Le Centre Bell fait ça très bien.
Non, faites du bruit, non.
Dans le foot, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais honnêtement, je pense que j'ai un peu un désamour avec le foot depuis 4-5 ans, là, où je n'ai pas le même amour passionnel ou genre irrationnel. Je suis beaucoup trop rationnel quand je regarde des matchs de foot. Et puis, pour moi, l'ambiance, s'il n'y a pas d'ambiance, ben. Je me concentre sur ce que je peux me concentrer, genre le voir, les matchs, tout ça, là, voir les passes et comprendre un peu le système. Mais oui, j'aimerais bien avoir une bonne ambiance, mais en même temps, moi, je parle pour moi-même. Je ne veux pas appliquer ma propre vérité sur tout le monde. Mais...
Après, le jeu en tant que tel, tu étais satisfait, toi?
Je trouve que Dortmund était trop fort.
Très mauvais.
Hein?
La défense de Schalke.
Ouais.
Attends, je ne veux pas refaire mon tweet, mais depuis quand que la Bundesliga, ça défend bien? Et puis les gens, ils oublient le contexte, là. Schalke, ils étaient 8e. C'est pas comme si c'était le 3e de la Ligue qui jouait contre Dortmund.
Moi, j'ai une question.
Schalke était 8e, puis ils étaient 8e. Donc, c'était pas un match-up, là. Mais moi, j'ai hâte à la Premier League. C'est la Premier League qui va faire que, OK, c'est bon. On revient à la normalité. S'ils reviennent.
Mais ma question est super importante. Comment ça se fait qu'il c'est encore le jour chez Sofiane, puis c'est la nuit chez Alec?
Parce que je suis à Wuhan. IMG.
C'est le patient zéro.
Je sais pas. Non, moi, je pense que c'est mon écran de laptop qui est... Toi, si tu es sur...
Ah, tu vois.
Oh, il a gelé, le pauvre.
Je suis là.
On vient de perdre Sofiane et son 5G, là.
Non, il est là. Moi, je le vois. Mais je le vois, mais je ne l'entends pas.
C'est ça, on a perdu le son de Sofiane. Sofiane, t'es à mute, comme on dirait dans nos meetings.
Allô?
Ah, voilà.
Quand Trudeau, il a dit qu'il y avait une question, c'était hilarant. Je pense que vous êtes sur mute.
Désolé. Ouais, comme dit Francis, depuis quand la Bundesliga défend bien, tu sais, les meilleurs défenseurs jouent à Dortmund, ensuite ils vont jouer tous au Bayern, donc il n'y a plus personne.
Les meilleurs attaquants sont des latéraux offensifs.
Exactement.
Il reste deux défenseurs par équipe.
Non, c'est le meilleur défenseur gauche du monde, guys. Davis.
Comment?
C'est le meilleur défenseur gauche du monde, déjà.
Est-ce qu'on...
Ben, même temps, peut-être... OK, dans les joueurs actifs, je pourrais...
Attends,
il y a... Dans la ligue active, je pourrais...
Je vais trouver le tweet de Grant Wall, là, qui m'a fait un peu
frustré. Pendant qu'il cherche ça, là, qu'est-ce qui va arriver au peuple canadien et aux médias si pro-Barcelone si Davis signe au Real Madrid? Est-ce qu'il devient un méchant?
Clairement.
Oh, il n'est plus considéré canadien.
Attends, je vais dire ce qui va arriver, OK?
Ouais, go.
Alphonse Davies, le joueur canadien d'origine libérienne, il commence avec ça.
OK.
Et après, ils vont dire...
L'international
canadien d'origine libérienne qui a vécu au Ghana. Mm-hmm. Et ensuite, le traître. Direct. Ça, c'est Barça Stas.
Toi, Alec, as-tu consommé jusqu'à la fin match day?
Je pense que oui, mais généralement, j'écoutais pas. J'étais sur mon téléphone. Non, c'était vraiment plate. Mais tu sais, ça m'a fait vraiment penser à les vidéos behind the scenes de 1 minute 20 sur Instagram. Genre, c'est comme les 15 stories. Genre, c'était ça. C'était comme une grosse pub pour le club. Là. Déjà, quand ça a commencé, puis tu vois Suarez et Messi de parler de quand leur enfant s'est couché, là, c'est beau. Là.
Moi, j'ai arrêté là.
J'ai déjà vous deux qui me dites ça sur le chat, là, ça s'est couché. Là.
J'ai arrêté là. J'ai commencé. Ils sont rentrés dans le parking du New Camp ou du centre d'entraînement, je ne sais plus ce que c'était. J'ai dit, OK, j'ai compris. Parce que déjà, The Last Dance, c'était un clip de plus d'être une vidéo sponsorisée pour Jordan. Donc, ça, c'est clair. J'ai même pas passé le deuxième épisode de la série Netflix sur la Juve. Je ne me rappelle même pas comment il s'appelait.
J'ai bien aimé quand même. Hein. Moi, j'avais bien aimé. Ben, c'était mieux fait que Batch Day, mettons.
Oui, c'était mieux fait, mais c'était aussi... J'ai rien à prendre. C'était du branding, genre, non, que on en dit un documentaire auto-sponsorisé, puis ça me donnait rien de plus, là. Ouais. C'est plus pour les jeunes pour apprendre c'est qui ces gens-là en dehors d'un Insta Live ou d'un Insta Story.
C'est pour les fans. C'est pour les fans de la Juve. Match Day, c'est probablement pour les fans de Barcelone. Mais tu sais, moi, ce que. Mais c'est ça. Je voulais avoir l'opinion d'un fan de Barcelone. Moi, je l'ai consommé après avoir vu tant de beaux commentaires. Mais qui étaient des pros Barcelone, puis je veux dire, après 30 minutes.
Mais je vais être honnête avec toi, il y a deux genres de fans du Barça aussi, tu sais. Il y a des genres de fans du Barça qui sont fans depuis que Pep est là, depuis que Messi est là, puis que c'est beau, on voit des buts, Barça c'est le meilleur club au monde, mais c'est un club, UNICEF, c'est la bisounours et tout. Et mettons, tu sais, moi j'aimais le Barça parce qu'il y avait Marquez, il y avait Ronaldinho. Là.
Mm-hmm. Oh,
après, j'ai aimé leur comment ils jouaient. Puis c'est tout. Tu sais, je veux dire, moi, quand l'affaire de Davis, moi, s'il va au Real, je vais être content pour lui. Tu sais, je vais pas le détester. Tu arrêtes tout au Real, il met tes débuts, j'étais content, tu sais, mais après, tu sais, je viens pas de Barcelone non plus. Hein. Je suis pas un socio impliqué politiquement là-bas et tout. Là.
Ouais, il y a beaucoup trop de faux hate de fans des clubs, qu'ils soient de la ville ou pas. Là. Moi, je ne hate pas. C'est quelqu'un qui est né en Ukraine, qui est un fan du Real Madrid. Moi, c'est pas parce que tu n'es pas né dans la ville du club que tu aimes que genre, t'es pas un fan. Mais il y a beaucoup la fausse haine sur les réseaux sociaux. Ah, moi, j'aime pas parce qu'il a fait ça et c'est un gars de Madrid. Il y a tellement beaucoup trop de démos, de couches émotionnelles qui sont plus du fait qu'autre chose. J'y crois
pas. Après, le sentiment d'appartenance, tu sais, je suis jamais allé au Camp Nou, je suis jamais allé à Barcelone. Tu sais, c'est dur à remplacer. Tu sais, exemple, un débat que j'ai souvent avec Mike, c'est que lui, il dit Barcelone, le club de soccer, ne doit jamais être mélangé à la politique. Pourtant, c'est l'histoire du club, genre.
Non, c'est pas vrai, ça.
C'est
moi, je comprends
n'importe quoi.
Je suis 100% d'accord avec lui.
C'est moi, je suis 100% pas d'accord avec lui. Je dis, c'est un club politisé. Il assume, il accepte. Puis c'est ça, c'est un fait. Lui, il dit que pour lui, non. Puis c'est correct aussi, tu sais. Sauf que, parce qu'on vient pas de Barcelone, tu sais. Personne de Barcelone veut dire, non, moi, la politique et le club, c'est
non. Non.
C'est ça, vient ensemble.
C'est même au Québec, c'était comme ça. Les Canadiens de Montréal, il y avait de la politique dans ce club-là. C'est clair. C'était une représentation de ce qui se passait dans la province. C'était il y avait un propriétaire anglophone. Il y avait des vedettes, des employés francophones qui se sentaient maltraités et qui étaient injustes. On voyait de l'injustice dans une ligue anglophone où on favorisait les vedettes anglaises versus les Maurice Richard et tout ça. C'est tout des politiques. Je veux dire, le sport.
C'est normal.
tout est politique. Et Barcelone, c'est hyper politique. C'est une représentation parfaite de la région Catalogne. Je veux dire, puis quand je dis région, c'est quasiment une honte là, pour la Catalogne. Là,
ouais, exactement.
Et puis, c'est au-delà d'une représentation. C'est la Catalogne. C'est une partie de la Catalogne. Autant que la Château de Gaudi, que la Sagrada Familia. Bon, j'exagère, c'est pas comme la Sagrada Familia, mais c'est une partie de l'ADN de la ville parce que c'est la ville. Ça n'a pas été transposé un jour comme ça. Ça fait partie de l'histoire de la ville. Pourquoi vous... Tu sais, quand il y avait des références un peu xénophobes envers l'Impact, on disait qu'il y avait une influence très italienne dans le club. Parce que ça fait partie de l'histoire du club et l'histoire de la ville. Tu sais, les gens, ils oublient l'histoire, les gens d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font.
Non, le club, c'est une représentation de ta société. Tu sais, on le voit, là. Présentement, ceux qui sortent de l'académie, c'est plus des origines européennes, là. Tu sais,
c'est tout le monde.
Il n'y a plus de Grecs à la Limiatis, il n'y a plus des Italiens à la Biello et de Saint-Tite, il n'y a plus des Ribeiro, il n'y a pas de Portugais, c'est plus ça, là, c'est une autre génération. Là.
Oui, ça s'appelle l'immigration, l'histoire, là, ça change. Et ça change rapidement parce que les gens voyagent beaucoup plus vite, on va plus vite, on va plus loin plus vite, puis c'est la réalité. C'est pas compliqué. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Nilton. Excuse-moi.
Non, c'est bon.
Mais c'est juste par rapport à ça, puis c'est très important. Mais tout ça, quand on a commencé avec Davis pour arriver à ça, c'est incroyable.
Tout ça pour dire... Oui, Glanman, tu disais déjà... Moi, je comprends pas le fait qu'on l'envoie déjà à gauche, à droite. Je veux dire, le Bayern de Munich...
Il est tout jeune aussi, là.
Non, mais c'est top 5 là, dans les clubs.
Laissons-le s'imposer au Bayern, parce que on oublie, mais là, à la base, il joue défenseur central parce qu'il y a énormément de blessures. Tu sais, Davis, c'est une chance parce que les joueurs sont blessés et il a très bien fait aussi. Ouais. Mais laissons-le faire 2-3 années complètes titulaires au Bayern Munich.
Ouais.
Après, tu sais, s'il part du Bayern, on s'entend que c'est Real ou c'est en bas. Parce que, bon, Real, Barça, City, ish. Tu sais, mais on s'entend, qu'est-ce qui est plus gros que Bayern ou du même niveau que Bayern? Real, Barça, peut-être?
Liverpool,
absolument. Mais tu sais, on s'entend que s'il va au Real, c'est parce que soit c'est un fan du Real depuis qu'il est petit, soit pour l'argent, soit aussi, tu sais, après, on ne va pas se mentir, le Real, c'est quand même, c'est quelque chose. Là. Je veux dire, tout le monde, quand le Real vient de voir, c'est cliché, comme dans le film Goal, là, le Real vient de voir une fois, tu dis pas non au Real Madrid, genre.
Exactement.
C'est normal aussi, genre.
Et attends, la chance de Davy, c'est qu'il est passé de la MLS tout de suite à avoir un gros club, le Bayern, tu sais, je veux dire.
Il n'y a pas de club. Le Bayern, c'est important. Il va à United, à City, il se casse la gueule. Il va au Bayern. Le Bayern, on te prend, on t'encadre. Tu te
comme la Juve, c'est des institutions. C'est genre, ils vont te former.
Moi, je trouve que le parcours de Davis, ça va nous donner un gros boost culturellement, là, sportif. Là, ça va être bon. Parce que nous, on disait tellement de niaiseries sur sa position, comme quoi c'était un gâchis, il est défenseur, nanana. Come on, man! Être un latéral, c'est un des postes les plus importants dans le football moderne. Et quand on connaît comment le Bayern de Munich joue, il joue pas, c'est pas un défenseur. Tout ce qu'il fait, c'est du travail qui va être mille fois utile pour sa carrière internationale canadienne.
Défense au Bayern, par ça, à City ou à Real, t'es lié. Tu sais, genre, t'as la balle 75% du temps, t'attaques 75% du temps, t'es lié.
Exactement. Et je trouve que les gens qui ont ces débats, où j'ai l'impression qu'ils se contredisent, c'est qu'ils n'auraient pas les matchs. Parce que
t'es pas habitué, parce que j'ai vu un journaliste américain qui disait que Davis a révolutionné le poste de latéral parce qu'il est presque lié. Ça fait 5 ans qu'en Europe, tu sais, Dani Alves, c'est du poulet, lui? Marcelo? Oui,
exact. Et dans le même week-end, on regarde à Dortmund, Guerrero, il fait la même chose. Il joue à 3 défenseurs, mais il joue à la même hauteur. Là, je veux dire, le ballon, il joue à la même place. C'est des gars.
Exactement.
C'est des gars qui ont été formés comme des alliés. Puis quand ils tombent dans ces postes-là, ils deviennent des joueurs complets, c'est tout.
Après, tu vois, Young